Et on commence avec vous. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Michael.
Aujourd'hui, l'économie, vous nous parlez ce matin des conséquences économiques des catastrophes naturelles, évidemment en lien avec la situation en Indonésie. L'archipel est confronté au cataclysme et la reconstruction représente un coût de plus en plus important pour ce pays émergent. Dominique, est-ce que cela remet en question la priorité récemment donnée au tourisme ?
Alors avec 2341 catastrophes naturelles répertoriées l'an dernier par l'Agence nationale chargée de gérer ces désastres à répétition, l'Indonésie apparaît bien comme l'un des pays les plus vulnérables au monde. C'est aussi un pays qui accueille un nombre croissant de touristes. 9 millions de visiteurs en 2015, 20 millions l'an prochain, promet le président Joko Widodo. Après son élection en 2014, il a misé sur cette activité et sur l'industrie pour accélérer la croissance, pour redistribuer des revenus et des emplois sur tout le territoire. En Indonésie, la nature est à la fois un trésor à exploiter et une malédiction puisque l'archipel est situé sur la ceinture de feu, une zone de très forte activité sismique.
Et quelles sont les conséquences économiques de toutes ces catastrophes, Dominique ?
Eh bien, à chaque fois qu'un désastre survient dans ce pays, les habitants sont sommés de sécher leurs larmes et de reconstruire afin que l'activité reprenne au plus vite. C'est ce qui a été demandé cet été aux habitants de Lombok, l'île qui a été frappée par une série de tremblements de terre meurtriers. 10% de la population de cette île vit encore dans des abris provisoires. 70 000 bâtiments ont été détruits. Ils sont encore loin d'être tous reconstruits. Difficile dans ces conditions de retrouver immédiatement une activité normale. Et pourtant, le gouvernement a déjà annoncé l'organisation d'un marathon à la fin du mois d'octobre pour redonner du lustre à cette destination dont il voudrait faire un nouveau Bali.
Cela prend du temps, Dominique, de redresser l'image d'un pays touristique qui est affecté par un tel cataclysme.
Eh bien, les touristes reviennent en général plus vite dans un pays affecté par le terrorisme que dans un pays touché par un cataclysme naturel en raison des délais imposés par la reconstruction. En termes macroéconomiques, l'Indonésie est a priori assez dynamique, résiliente pour encaisser ses avenies. Elle a démontré jusqu'à maintenant une très forte capacité de rebond. Le tsunami de 2004 qui a dévasté Aceh et provoqué la mort de près de 200 000 personnes a été la plus grande épreuve à surmonter. Depuis, le pays enregistre une croissance régulière de 5 à 6% par an, un taux à peine écorné par la facture des multiples reconstructions. Mais le gouvernement doit néanmoins apprendre à intégrer ce risque naturel parce qu'avec le changement climatique, les cataclysmes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. La mer de Java est en train de monter. Les personnes déplacées se comptent aujourd'hui par millions dans l'archipel indonésien. Ce fardeau socio-économique, eh bien, le gouvernement doit le prendre en compte dans ses choix économiques.
Dominique, pourquoi est-ce que le président Widodo a voulu développer le tourisme?
Alors pendant longtemps, l'Indonésie a surtout exploité les richesses de sa terre en exportant du charbon, de l'huile de palme. Mais avec la chute des cours et la mauvaise réputation dont souffre la production de ces deux matières premières, le président indonésien a voulu réorienter le développement sur d'autres bases. Le tourisme étant un moyen rapide de créer des emplois, de fournir des devises. Il représente aujourd'hui à peu près 6% du produit intérieur brut, 12 millions d'emplois. En dépendent.
En bref, Dominique, Ottawa et Washington ont finalement trouvé un compromis sur la réforme de l'ALENA.
L'ALENA, dénoncé par Donald Trump, s'appelle dorénavant l'accord économique États-Unis-Mexique-Canada. Les Américains ont grappillé un meilleur accès au marché canadien du lait. Une concession faite par Ottawa pour obtenir le maintien du mécanisme de règlement des différends auquel le gouvernement tient beaucoup.
Aux États-Unis, l'administration Trump poursuit la Californie où vient d'entrer en vigueur une loi sur la neutralité de l'Internet.
Alors, cette loi californienne préserve l'égalité des citoyens dans l'accès au contenu. Elle empêche les fournisseurs d'accès à moduler la vitesse du débit en fonction de la nature des données qui transitent par leurs tuyaux. Les géants du web y sont favorables. En revanche, l'administration fédérale a abandonné ce principe en juin dernier.
Dominique Bayard, aujourd'hui l'économie, merci.